Voici l'épreuve de compréhension orale, français, programme long, automne 2009. Elle comprend 5 parties. Vous aurez des instructions avant chacune des parties. Écoutez bien les documents sonores. Vos réponses doivent se baser sur les documents entendus. L'épreuve commence. Dans la première partie de l'épreuve, vous entendrez un entretien avec Ariel Zetoun au Festival de l'Humour à Saint-Gervais. Vous l'entendrez d'abord en entier, puis en plusieurs sections. Le voici en entier.
Ariel Zetoun, vous êtes réalisateur de cinéma et membre du jury de ce festival. Dites-nous, quels seront vos critères pour choisir l'humoriste qui vous plaît le plus ?
Je ne me considère pas comme juge sur ce festival. Il existe une palette très large dans l'humour. On n'est pas tous touchés de la même façon. Je ne vais en aucun cas faire une analyse critique des spectacles, mais plutôt suivre mes émotions.
Et regardez-vous les spectacles avec l'œil du spectateur ou celui du professionnel ?
Je n'ai qu'un œil. Il est juste plus averti que celui d'un spectateur commun, puisque j'ai l'habitude de voir des spectacles. Ce qui est important pour moi, c'est de me retrouver en face d'acteurs et d'être en état d'admiration.
Et est-ce qu'il vous arrive de quitter la salle avant la fin d'un one-man show ?
Le fait d'être juge me force à me concentrer sur un spectacle d'un bout à l'autre, même si je n'y porte pas grand intérêt. Il faut laisser sa chance à l'artiste. C'est comme une projection au cinéma. Je ne supporte pas les gens qui se lèvent en plein milieu. Par contre, lorsque je lis un scénario de film, si au bout des 20 premières pages je ne ressens rien, j'arrête.
D'accord. Et pourriez-vous donner un coup de main à un artiste qui vous plaît particulièrement ?
C'est tout à fait possible. Par exemple, Gad Elmaleh et Danny Boone. Je suis allé les voir sur scène lorsqu'ils n'étaient pas connus. Et ils ont joué dans mes films. Mais ce n'est pas la personne qui donne le coup de main qui est importante. Je crois sincèrement au destin et au talent. Si l'on peut prouver que l'on est capable de quelque chose et que l'on se trouve au bon moment, au bon endroit, il n'y a pas de raison que l'on ne réussisse pas.
Que pensez-vous des humoristes qui deviennent acteurs ?
J'aime beaucoup les gens qui font des one-man shows car ils sont en bataille permanente avec le public. Les acteurs qui ont été d'abord des humoristes sont, d'une manière générale, meilleurs que les autres. Ils ont un incroyable savoir-faire. Ils connaissent par cœur leur texte et le manient parfaitement. L'humour, c'est une excellente école.
Presque tous les humoristes en compétition ont déjà utilisé la télévision pour se faire connaître des spectateurs. Qu'en pensez-vous ?
La télé est devenue un passage obligé pour tout aujourd'hui. Le vrai danger, c'est qu'elle devienne un juge et qu'elle oublie qu'elle n'est qu'une vitrine. Ce serait dommage que les spectateurs soient seulement guidés par elle.
Étudiez les questions 1 et 2.
Ariel Zetoun, vous êtes réalisateur de cinéma et membre du jury de ce festival. Dites-nous, quels seront vos critères pour choisir l'humoriste qui vous plaît le plus ?
Je ne me considère pas comme juge sur ce festival. Il existe une palette très large dans l'humour. On n'est pas tous touchés de la même façon. Je ne vais en aucun cas faire une analyse critique des spectacles, mais plutôt suivre mes émotions.
Et regardez-vous les spectacles avec l'œil du spectateur ou celui du professionnel ?
Je n'ai qu'un œil. Il est juste plus averti que celui d'un spectateur commun, puisque j'ai l'habitude de voir des spectacles. Ce qui est important pour moi, c'est de me retrouver en face d'acteurs et d'être en état d'admiration.
Répondez aux questions 1 et 2 et étudiez les questions 3 et 4.
Et est-ce qu'il vous arrive de quitter la salle avant la fin d'un one-man show?
Le fait d'être juge me force à me concentrer sur un spectacle d'un bout à l'autre, même si je n'y porte pas grand intérêt. Il faut laisser sa chance à l'artiste. C'est comme une projection au cinéma. Je ne supporte pas les gens qui se lèvent en plein milieu. Par contre, lorsque je lis un scénario de film, si au bout des 20 premières pages je ne ressens rien, j'arrête.
D'accord. Et pourriez-vous donner un coup de main à un artiste qui vous plaît particulièrement?
C'est tout à fait possible. Par exemple, Gad Elmaleh et Danny Boone. Je suis allé les voir sur scène lorsqu'ils n'étaient pas connus. Et ils ont joué dans mes films. Mais ce n'est pas la personne qui donne le coup de main qui est importante. Je crois sincèrement au destin et au talent. Si l'on peut prouver que l'on est capable de quelque chose et que l'on se trouve au bon moment, au bon endroit, il n'y a pas de raison que l'on ne réussisse pas.
Répondez aux questions 3 et 4 et étudiez les questions 5 et 6.
Que pensez-vous des humoristes qui deviennent acteurs?
J'aime beaucoup les gens qui font des one-man shows, car ils sont en bataille permanente avec le public. Les acteurs qui ont été d'abord des humoristes sont, d'une manière générale, meilleurs que les autres. Ils ont un incroyable savoir-faire. Ils connaissent par cœur leur texte et le manient parfaitement. L'humour, c'est une excellente école.
Presque tous les humoristes en compétition ont déjà utilisé la télévision pour se faire connaître des spectateurs. Qu'en pensez-vous?
La télé est devenue un passage obligé pour tout aujourd'hui. Le vrai danger, c'est qu'elle devienne un juge et qu'elle oublie qu'elle n'est qu'une vitrine. Ce serait dommage que les spectateurs soient seulement guidés par elle.
Répondez aux questions 5 et 6. Dans la deuxième partie de l'épreuve, vous entendrez 5 petits dialogues. Vous les entendrez chacun une seule fois. Dans chaque situation, choisissez la réplique la mieux adaptée. Étudiez la question 7. Voici le premier dialogue.
C'est une catastrophe!
Qu'est-ce qui t'arrive?
J'ai fait tomber mon portable dans la baignoire.
Répondez à la question 7 et étudiez la question 8. Voici le deuxième dialogue.
Allô ?
Oui, bonsoir, monsieur. C'est bien monsieur Bérard à l'appareil.
Oui, et vous, c'est ?
C'est monsieur Tisserand, de la société Publifrance. Bonsoir. Je voudrais vous parler d'une offre exceptionnelle. Ce mois-ci, vous pouvez vous abonner pour toute une année à 3 de nos magazines pour le prix de 2 seulement. Ça vous intéresse ?
Répondez à la question 8 et étudiez la question 9. Voici le troisième dialogue.
Salut Pascal. Écoute, je voulais te demander si tu viens à la fête chez Nicole vendredi soir.
Eh bien oui, je crois.
Qu'est-ce que tu dirais si on partageait un taxi pour rentrer ? Ça nous reviendrait moins cher comme ça. Comme tu le sais, je suis pratiquement à sec depuis notre voyage à Paris.
Répondez à la question 9 et étudiez la question 10. Voici le quatrième dialogue.
Bonjour madame, je voudrais voir vos produits écologiques.
Très bien madame. Regardez, nous avons aussi bien des t-shirts que des jupes ou des pantalons. C'est pour vous ?
Non, c'est pour ma nièce Nicole qui est très écolo. C'est son anniversaire demain et je veux lui faire une surprise.
Ah, je vois. Voilà une jupe qui plaît beaucoup aux ados. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Répondez à la question 10 et étudiez la question 11. Voici le cinquième et dernier dialogue.
Un pantalon et deux chemises. Ça fait 257 euros au total. Vous réglez comment ?
Répondez à la question 11. Dans la troisième partie de l'épreuve, vous entendrez un entretien avec le médecin et nutritionniste Marie-Laure Frelu sur les problèmes du surpoids et de l'obésité des enfants. Vous entendrez l'entretien deux fois. D'abord en entier, puis en plusieurs sections. Le voici en entier.
Marie-Laure Frelu, actuellement, quelle est en France la situation de l'obésité infantile ?
16% des petits Français sont aujourd'hui en surpoids, obèses ou trop ronds. Donc environ un enfant sur 6. Et on craint que ce chiffre continue à monter. Aux États-Unis, un enfant sur 3 est obèse. Et en Grande-Bretagne, on suit le mauvais modèle des Américains. Il faut tout faire dans notre pays pour ne pas en arriver là.
Connaît-on les causes de cette obésité ?
L'hérédité, les gènes y sont pour beaucoup. Mais l'environnement joue aussi un rôle important.
Il arrive ainsi que, durant la grossesse, une prise trop importante et trop rapide de kilos par la mère favorise l'installation du surpoids chez son bébé. C'est pourquoi nous conseillons toujours aux femmes enceintes de surveiller très attentivement leur poids en respectant un bon équilibre alimentaire et en pratiquant une activité physique adaptée.
Quels sont les risques de cette obésité pour l'enfant ?
Il y a toujours un risque de traumatisme psychologique dû aux moqueries des petits camarades. Ce surpoids présente aussi des risques de maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Il ne faut plus minimiser ces menaces chez l'enfant obèse.
Quelles sont les principales recommandations des nutritionnistes et des pédiatres pour éviter ces risques ?
En cas d'obésité soupçonnable, dès l'âge de 1 an, on peut empêcher l'obésité de s'installer. Il faut nourrir le bébé de façon très équilibrée. Des portions alimentaires strictement adaptées, de l'eau comme boisson, pas de grignotage entre les repas. Et surtout, pas trop de sucre ni de graisse. Le pire des exemples est celui des petits Américains dont un enfant sur 5 mange des frites tous les jours dès l'âge de 9 mois. Il est important que les parents ne se laissent pas piéger par les publicités qui proposent toutes sortes d'aliments sucrés. Autre message adressé aux parents, faites bouger votre enfant, oubliez les véhicules à roues, encouragez-le à marcher, surtout en plein air.
Étudiez les questions 12 et 13.
Marie-Laure Frelu, actuellement, quelle est en France la situation de l'obésité infantile ?
16% des petits Français sont aujourd'hui en surpoids, obèses ou trop ronds. Donc environ un enfant sur 6. Et on craint que ce chiffre continue à monter. Aux États-Unis, un enfant sur 3 est obèse. Et en Grande-Bretagne, on suit le mauvais modèle des Américains. Il faut tout faire dans notre pays pour ne pas en arriver là.
Connaît-on les causes de cette obésité ?
L'hérédité, les gènes y sont pour beaucoup, mais l'environnement joue aussi un rôle important. Il arrive ainsi que, durant la grossesse, une prise trop importante et trop rapide de kilos par la mère favorise l'installation du surpoids chez son bébé. C'est pourquoi nous conseillons toujours aux femmes enceintes de surveiller très attentivement leur poids en respectant un bon équilibre alimentaire et en pratiquant une activité physique adaptée.
Répondez aux questions 12 et 13 et étudiez la question 14.
Quels sont les risques de cette obésité pour l'enfant ?
Il y a toujours un risque de traumatisme psychologique dû aux moqueries des petits camarades. Ce surpoids présente aussi des risques de maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Il ne faut plus minimiser ces menaces chez l'enfant obèse.
Répondez à la question 14 et étudiez les questions 15 et 16.
Quelles sont les principales recommandations des nutritionnistes et des pédiatres pour éviter ces risques?
En cas d'obésité soupçonnable dès l'âge de 1 an, on peut empêcher l'obésité de s'installer. Il faut nourrir le bébé de façon très équilibrée. Des portions alimentaires strictement adaptées, de l'eau comme boisson, pas de grignotage entre les repas. Et surtout, pas trop de sucre ni de graisse. Le pire des exemples est celui des petits Américains dont un enfant sur 5 mange des frites tous les jours dès l'âge de 9 mois. Il est important que les parents ne se laissent pas piéger par les publicités qui proposent toutes sortes d'aliments sucrés. Autre message adressé aux parents, faites bouger votre enfant, oubliez les véhicules à roues, encouragez-le à marcher, surtout en plein air.
Répondez aux questions 15 et 16.
Dans la quatrième partie de l'épreuve, vous entendrez le récit de Jean Brevet, étudiant en médecine. Vous entendrez le texte d'abord en entier, puis en deux sections. Voici le texte en entier. Jean Brevet, 25 ans, jeune étudiant en médecine à Paris, nous raconte ses projets.
Mon père est médecin à Toulouse et il m'a proposé de reprendre son cabinet médical, mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère une médecine de plus grande proximité, comme avant, lorsqu'un médecin suivait les enfants de la naissance à l'âge adulte. Je m'installerai donc à la campagne quand j'aurai fini mes études. La campagne souffre depuis une dizaine d'années d'une constante désertification médicale. Les jeunes refusent souvent de venir dans des zones jugées isolées. J'ai choisi la Bourgogne parce que la densité des professionnels de santé y est inférieure à la moyenne nationale. Et plus précisément le département de Saône-et-Loire, dans lequel plusieurs cantons manquent déjà cruellement de médecins. Je suis interne des hôpitaux de Paris, et m'installer dans 3 ans à la campagne va être un sacré changement. En choisissant la Bourgogne du Sud, je ne suis pourtant pas tout à fait en terre inconnue, car mon grand-père est de Cluny et nous y avons gardé une maison de famille où je suis souvent allé en vacances. Mais pour être très honnête, sans l'aide financière de 1 000 euros par mois pour 3 ans accordée par le département, je ne me serais pas engagé. Cela va quasiment doubler mon salaire d'interne. Pour bénéficier de cette bourse, j'ai dû m'engager à m'installer pour une durée minimale de 5 ans dans l'un des cantons manquant de médecins. Cela ne me pose pas de problème parce que j'avais aussi envie de travailler à la campagne. Et Cluny est le seul coin que je connais. En clair, je partirai content et sans doute pour longtemps.
Étudiez les questions 17 et 18. Jean Brevet, 25 ans, jeune étudiant en médecine à Paris, nous raconte ses projets.
Mon père est médecin à Toulouse et il m'a proposé de reprendre son cabinet médical, mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère une médecine de plus grande proximité, comme avant, lorsqu'un médecin suivait les enfants de la naissance à l'âge adulte. Je m'installerai donc à la campagne quand j'aurai fini mes études. La campagne souffre depuis une dizaine d'années d'une constante désertification médicale. Les jeunes refusent souvent de venir dans des zones jugées isolées. J'ai choisi la Bourgogne parce que la densité des professionnels de santé y est inférieure à la moyenne nationale. Et plus précisément, le département de Saône-et-Loire, dans lequel plusieurs cantons manquent déjà cruellement de médecins.
Répondez aux questions 17 et 18 et étudiez les questions 19 et 20.
Je suis interne des hôpitaux de Paris et m'installer dans 3 ans à la campagne va être un sacré changement. En choisissant la Bourgogne du Sud, je ne suis pourtant pas tout à fait en terre inconnue, car mon grand-père est de Cluny et nous y avons gardé une maison de famille où je suis souvent allé en vacances. Mais pour être très honnête, sans l'aide financière de 1000 euros par mois pour 3 ans accordée par le département, je ne me serais pas engagé. Cela va quasiment doubler mon salaire d'interne. Pour bénéficier de cette bourse, j'ai dû m'engager à m'installer pour une durée minimale de 5 ans dans l'un des cantons manquant de médecins. Cela ne me pose pas de problème, parce que j'avais aussi envie de travailler à la campagne. Et Cluny est le seul coin que je connais. En clair, je partirai content, et sans doute pour longtemps.
Répondez aux questions 19 et 20.
Dans la dernière partie de l'épreuve, vous entendrez 4 brèves nouvelles, chacune 2 fois. Écrivez vos réponses sur la face A de la feuille réponse. Voici la première nouvelle.
Une Égyptienne, originaire du Caire, a obtenu le divorce parce que son mari vaporisait dans leur domicile un désodorisant à l'aloès. Au tribunal, elle a expliqué qu'elle aimait son mari et ne souhaitait pas le quitter, mais que celui-ci ne voulait pas arrêter d'utiliser le désodorisant bien qu'il donne une allergie aux bronches à sa femme. Le prétexte du mari était que l'odeur lui était familière depuis l'enfance.
Étudiez la question A.
Une Égyptienne, originaire du Caire, a obtenu le divorce parce que son mari vaporisait dans leur domicile un désodorisant à l'aloès. Au tribunal, elle a expliqué qu'elle aimait son mari et ne souhaitait pas le quitter, mais que celui-ci ne voulait pas arrêter d'utiliser le désodorisant bien qu'il donne une allergie aux bronches à sa femme. Le prétexte du mari était que l'odeur lui était familière depuis l'enfance.
Répondez à la question A. Voici la deuxième nouvelle.
Un couple de Lyon a cru sa dernière heure venue. Alors qu'il regardait tranquillement la télévision, une forte explosion a retenti. Elle provenait du toit de la maison et a été suivie par une cascade de tuiles et de morceaux de glace. Les enquêteurs ont constaté qu'un bloc de glace tombé d'un avion avait fait un énorme trou dans le toit de la maison. Le malheureux couple doit maintenant consulter les horaires et les trajets des avions qui les survolent pour identifier le responsable. Car, dans certaines conditions de température et d'altitude, de la glace peut se former sur les ailes de l'avion, puis se détacher quand les conditions changent.
Étudiez la question B.
Un couple de Lyon a cru sa dernière heure venue. Alors qu'il regardait tranquillement la télévision, une forte explosion a retenti. Elle provenait du toit de la maison et a été suivie par une cascade de tuiles et de morceaux de glace. Les enquêteurs ont constaté qu'un bloc de glace tombé d'un avion avait fait un énorme trou dans le toit de la maison. Le malheureux couple doit maintenant consulter les horaires et les trajets des avions qui les survolent pour identifier le responsable. Car, dans certaines conditions de température et d'altitude, de la glace peut se former sur les ailes de l'avion, puis se détacher quand les conditions changent.
Répondez à la question B. Voici la troisième nouvelle.
Afin d'attirer l'attention sur la condition des grands singes captifs, et sans doute aussi pour faire un bon coup de promotion, le zoo d'Adélaïde, en Australie, propose pendant un mois le coin des humains. Une dizaine de volontaires sont installés dans une cage à gorilles, mangeant des bananes sous le soleil brûlant. Pour trouver des façons d'améliorer la condition des vrais singes en captivité, un psychologue suit ce petit groupe de cobayes. Les règles imposées aux volontaires sont simples, mais strictes. Pas de comportement provoquant, ne rien accepter des visiteurs et ne pas leur parler. En cas de désordre, les vétérinaires n'hésiteraient pas à se servir de leur carabine, à fléchette sédative.
Étudiez la question C.
Afin d'attirer l'attention sur la condition des grands singes captifs, et sans doute aussi pour faire un bon coup de promotion, le zoo d'Adélaïde, en Australie, propose pendant un mois le coin des humains. Une dizaine de volontaires sont installés dans une cage à gorilles, mangeant des bananes sous le soleil brûlant. Pour trouver des façons d'améliorer la condition des vrais singes en captivité, un psychologue suit ce petit groupe de cobayes.
Répondez à la question C. Et étudiez la question D.
Les règles imposées aux volontaires sont simples, mais strictes. Pas de comportement provoquant, ne rien accepter des visiteurs et ne pas leur parler. En cas de désordre, les vétérinaires n'hésiteraient pas à se servir de leur carabine à fléchette sédative.
Répondez à la question D. Voici la quatrième et dernière nouvelle.
Pour inaugurer la première ligne du nouveau tramway qui dans quelques années fera le tour complet de Paris, on a fait appel à 9 artistes. Ceux-ci se sont chargés de la conception et de l'implantation de 8 œuvres d'art contemporains le long du trajet du nouveau moyen de transport. Ainsi, tous les Parisiens pourront profiter d'une exposition originale à ciel ouvert.
Étudiez la question E.
Pour inaugurer la première ligne du nouveau tramway qui dans quelques années fera le tour complet de Paris, on a fait appel à 9 artistes. Ceux-ci se sont chargés de la conception et de l'implantation de 8 œuvres d'art contemporains le long du trajet du nouveau moyen de transport. Ainsi, tous les Parisiens pourront profiter d'une exposition originale à ciel ouvert.
Répondez à la question E.
Nous voici à la fin de l'épreuve. Vous avez encore 8 minutes pour porter vos réponses sur le formulaire à lecture optique et pour revoir vos réponses écrites sur la feuille réponse. N'oubliez pas les renseignements qu'on vous demande. Merci.